Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Ici, pendant une heure, des initiatives positives, des solutions et des pépites françaises. Ce soir, un modèle d'entrepreneuriat ouvert à tous. Jeunes cadres en reconversion, femmes, il a fait ses preuves et ils sont de plus en plus nombreux à s'engager sur cette voie. À l'occasion du Salon Franchise Expo, des exemples de belles entreprises françaises, franchisées et des start-up en devenir. Bonsoir Mathieu Gerber.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France bouge, vous êtes le président fondateur des Opticiens Mobiles. Les Opticiens Mobiles qui accompagnent des publics fragiles et éloignés dans les soins visuels.
Exactement.
Et franchisés.
Et franchisé.
Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir sur Europe 1. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Ça va, vous avez passé un bon week-end?
Très beau et vous?
Très bien, en plus il fait beau,
il fait chaud, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Dans cette émission dédiée à la franchise, on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de la France bouge. De qui s'agit-il?
On va prendre des nouvelles de Jonathan Zwickel, c'est le fondateur de Crocorico qui revisite les croque-monsieur à travers les spécialités régionales françaises.
Et alors, il est franchisé?
Il est en train de se franchiser, il était venu dans la France bouge il y a 2 ans, il va tout nous expliquer tout à l'heure.
Formidable. Rendez-vous à 20h50 et dans cette France bouge dédiée à la franchise, des exemples de start-up qui ont un potentiel énorme pour se développer en franchise. La première, The New Me. Bonsoir Constance de Chompré.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France bouge. Vous avez fondé votre entreprise autour du bien-être et du sport. Vous êtes en ce moment exposante au salon Franchise Expo. Ça se passe bien?
Très bien. Vous avez... Je ne peux plus parler, mais ça se passe très bien.
Qu'on parle... Mais vous avez installé un studio de pilates en plein cœur du salon?
Exactement. J'ai installé un vrai studio au cœur du salon.
Eh bien, il faut oser, c'est ça l'audace. Et puis bonsoir Najma Souab.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France bouge, cofondatrice de Batesty's Bakery, un salon de thé américain où on peut y manger sur place des pâtisseries qu'on fabrique soi-même.
Exactement, c'est ça.
Exceptionnel.
C'est des pâtisseries sur mesure. Donc on a aussi une proposition de brunch et de gâteaux. Et donc vous pouvez créer vous-même vos pâtisseries sur mesure.
Et si vous êtes parmi nous ce soir Najma, c'est parce que vous avez déjà reçu plus de 500 demandes de franchise.
Exactement.
Vous allez tout nous dire aussi. Au cours de cette belle émission, aux manettes de l'émission de cette France bouge, Christophe Pierrot, c'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1.
Europe 1, l'invité de la France bouge.
Et c'est la grand-messe de l'entrepreneuriat, le salon Franchise Expo Paris qui a lieu en ce moment à Paris Expo Porte de Versailles, le modèle de la franchise, modèle d'entrepreneuriat qui s'impose de plus en plus, Clara Léger. Aidez-nous à comprendre d'abord, pour tous les auditeurs d'Europe 1, un franchisé c'est quoi?
Alors une franchise c'est un accord par lequel une entreprise qu'on appelle donc le franchiseur offre à une autre entreprise qu'on appelle le franchisé le droit de commercialiser ses produits ou ses services en échange d'une compensation financière. Ça permet un modèle économique avec un meilleur taux de survie. Généralement, 80% des franchises sont encore en activité 5 ans après leur lancement. Et c'est un modèle qui est en constante évolution.
Constante évolution, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Par exemple, cette année, 2023 par rapport à 2022, vous avez quelques chiffres?
En 2023, on compte 2035 réseaux de franchises, ce qui représente 92 132 points de vente franchise. C'est plus 3,2% par rapport à 2022. Donc c'est vraiment énorme.
Donc c'est en perpétuelle évolution.
Tout en
croissance.
Toujours en 2023, ça représentait 651 620 emplois directs ou indirects en franchise. C'est les chiffres de la Fédération française de la franchise.
Ouais. Donc ça signifie que c'est un modèle qui plaît et on va découvrir ce soir sur Europe 1 tous ensemble pourquoi ça plaît, pourquoi ça marche. Justement, avec le premier exemple de ce soir, il a choisi de se positionner sur le métier d'opticien au cœur de la relation avec les aidants, les soignants. Cet entrepreneur a choisi d'aller vers des publics plus éloigné, ça a démarré en 2015 et depuis s'est développé en franchise. Le nom de cette entreprise, c'est les Opticiens Mobiles. Avec vous, Mathieu Gerber, vous êtes le président fondateur des Opticiens Mobiles. Vous savez qu'il y a un rituel dans la France bouge, vous allez tout s'y passer, hein, puisque comme chaque soir, tout le monde, c'est que d'abord on pitch son entreprise pendant 1 minute. Les Opticiens Mobiles façon franchise, c'est quoi? Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Allez, top chrono, on vous écoute.
Donc les Opticiens Mobiles, c'est un réseau national d'opticiens qui se déplace à domicile sur les lieux de vie ou de travail des personnes actives ou fragiles, principalement de la fragilité. Imaginez que vous êtes chez vous, vous avez un besoin de lunettes, vous avez un proche qui est dans un établissement médico-social, dans un EHPAD, qui a un problème de vue, qui a besoin de changer ses lunettes. Et ben pour pouvoir y avoir accès, vous prenez rendez-vous avec nos équipes qui vont se déplacer avec tout le matériel nécessaire. L'opticien, c'est un professionnel de santé, donc il vient avec tout le matériel pour faire le bilan visuel, toutes ses lunettes, toutes les lentilles également. Et il peut vous proposer directement chez vous un bilan visuel sans avoir à vous déplacer. Et les Optiens Mobiles, c'est une société à mission et on a la première société de l'optique à avoir obtenu le label ESUS pour nous ancrer pleinement dans l'économie sociale et solidaire. C'est 60 collaborateurs, 35 personnes en équipe support, 25 salariés et 72 franchisés.
Merci, moins d'une minute, mais on a très bien saisi ce que c'était, hein, Clara Léger, vous avez tout compris.
Rapide, efficace.
Rapide et efficace, Mathieu Gerber, président fondateur des Opticiens Mobiles. On va parler évidemment des Opticiens Mobiles. Pourquoi vous vous êtes lancé dans la franchise ? C'est-à-dire, en gros, si on comprend bien, c'est un camion avec des opticiens, c'est quoi l'idée ? Ou ce sont des opticiens qui sont leurs propres franchisés ?
C'est pas un camion, c'est vraiment nos opticiens. Donc c'est vraiment une expérience humaine qu'on fait vivre à nos clients. C'est nos opticiens, opticiennes qui se déplacent, puisqu'on a principalement 80% de femmes chez les Opticiens Mobiles.
Donc chaque opticien est son propre en patron ?
Exactement, ils sont dans leur propre patron. On est vraiment dans le service à la personne, on est dans le service de santé à domicile. Donc c'est vraiment l'opticienne ou l'opticien qui va avoir dans sa voiture tout le matériel nécessaire, transportable. Et puis il va l'amener directement chez les gens, il va installer un espace vision dans le salon, dans un EHPAD, dans une entreprise, et il va pouvoir faire le bilan visuel, faire choisir les montures directement dans une forme d'entre guillemets de salon privé, puisque la relation est très privilégiée
entre le
patient et l'opticien.
Mais oui, parce qu'il va dans le salon ou dans l'EHPAD ou des particuliers. Quand vous avez eu cette idée, Mathieu Gerber, est-ce qu'immédiatement vous vous êtes dit, mais moi je vais en faire une franchise? D'abord, pour faire une franchise, il faut éprouver le modèle, pour voir si ça marche.
Exactement, on a éprouvé le modèle tout d'abord avec des indépendants au tout départ, des gens qui étaient vraiment auto-entrepreneurs, c'était vraiment le début de l'entreprise, et ensuite on l'a modélisé, façonné avec une vingtaine de salariés avant de le transmettre et de le transférer en franchise. Et l'objectif de la franchise, c'était vraiment d'avoir des professionnels de santé qui s'impliquent dans vraiment en proximité, en local, et qui vont s'insérer avec l'ensemble des acteurs de la santé, que ce soit des ergothérapeutes, des ophtalmologistes, des kinés, des médecins, et vraiment s'insérer dans le tissu local.
Vous êtes opticien ?
Moi, je ne suis pas opticien.
Non, mais vous avez travaillé de très nombreuses années au sein du groupe.
Pour le groupe Essilor.
Vous avez immédiatement senti qu'il y avait quelque chose que vous pourriez développer partout en France, parce que l'idée de la franchise, c'est qu'on part d'un endroit et on se dit qu'on a envie d'essaimer, d'en avoir partout, d'avoir sa propre marque partout sur le territoire. Est-ce que immédiatement vous avez dit il y a quelque chose à faire là-dedans?
On est une entreprise de l'ESS, donc l'objectif c'était vraiment
de l'économie sociale et solidaire.
Voilà, avec un agrément ESUS, on est le seul acteur de l'optique à l'avoir, enfin le premier en tout cas. Et l'objectif, c'est vraiment les besoins sont omniprésents. Nous, vous l'avez cité, on s'intéresse principalement au public fragile, puisque nos clients numéro un sont les personnes dans les EHPAD, les personnes âgées à domicile, les personnes en situation de handicap. C'est 40% de croissance.
Donc public éloigné.
Public éloigné, public fragile. Et en fait, les besoins sont omniprésents. Il y a 2 millions de personnes âgées dépendantes aujourd'hui en France. Il y en aura 4 millions demain. Et les gens n'ont pas accès à la santé visuelle facilement. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir leur amener une solution clé en main pour qu'ils puissent ne pas être dans le non-recours aux soins.
Qu'est-ce que ça signifie quand on se dit qu'on va... Moi, je vois toutes les franchises qu'on a autour de nous. Ça signifie que vous êtes aussi en train de valoriser un métier. Là, en l'occurrence, vous, avec les opticiens mobiles, c'est le métier d'opticien qui a été un métier, on peut le dire, assez décrié par rapport aux mutuelles, etc. Ça veut dire que vous voulez le placer dans la noblesse même du métier, c'est-à-dire accompagner les soins visuels. On sait que plus on prend de l'âge, plus on va avoir des problèmes de vue, et pourtant les plus fragiles, les plus éloignés n'ont pas forcément accès à ces soins-là. C'est aussi ça que vous aviez envie de dire à travers votre entreprise?
Exactement, tant pour répondre aux besoins patients. À partir de 60 ans, on a tous un problème de vue, donc on va tous y être confrontés un jour.
Même avant, regardez, moi, je suis avec mes lunettes alors qu'il y a encore 2 ans, je voyais
moi aussi, je vois rien.
Parfaitement.
Voilà, donc on est tous confrontés à la vue, donc c'est 80% de l'information passe par la vue, donc l'objectif c'était vraiment justement de pouvoir développer une solution rapidement et pouvoir la mettre en place.
Mais immédiatement, vous vous êtes dit, je veux en faire une franchise ? Quand vous avez écrit le business plan, c'était
prévu ?
Non,
au départ, c'était vraiment pas la franchise. Au départ, en fait, c'est un parcours. La franchise, ça s'est présenté de fait. Pourquoi ? Parce que pour mailler le territoire, à un moment donné, et accélérer, la franchise, c'est vraiment la meilleure des façons.
Pourquoi ?
Pourquoi ? L'opticien est un professionnel de santé. Le professionnel de santé, il y a 2 choses qu'il n'aime pas faire, l'administratif et le développement commercial qu'il ne sait pas faire. Et vous l'avez dit, l'opticien, il a été trop vu et cornérisé vendeur de lunettes, alors que l'opticien a vraiment
a des compétences,
c'est un professionnel de santé, et donc il y avait tout à modéliser pour pouvoir l'aider à faire ce métier en le déchargeant de toutes les tâches administratives, de tout ce qui va être lié à la partie commerciale pour qu'il puisse travailler en tant que professionnel de santé.
Claire Léger,
est-ce qu'il y a une formation particulière du coup dans ce cadre-là ?
Alors dans le cadre, un opticien, il doit être déjà diplômé. Un opticien diplômé, nous on n'a que des opticiens diplômés, et ensuite on a un parcours de formation et d'intégration, on a créé l'école, une académie en interne pour les former à travailler auprès des publics fragiles.
Avoir le tampon opticien mobile.
Oui, exactement, et c'est complémentaire à l'offre magasin. C'est complémentaire dans ce magasin. Et ben, aujourd'hui, vous pouvez aller dans un magasin si vous avez besoin de lunettes ou besoin d'un équipement et un opticien peut renouveler des ordonnances. Vous pouvez faire appel à lui, il va se déplacer à domicile. Et il y en a qui achètent sur Internet puisqu'il y a des opticiens qui existent sur Internet.
Et ça vous arrive, vous, d'apporter les lunettes même chez l'opticien mobile ? C'est-à-dire de vendre aussi des lunettes ?
Ah ben bien sûr.
C'est ça, une fois que vous avez fait l'examen, vous arrivez avec votre valise, votre panoplie de lunettes.
Il y a tout pour pouvoir essayer. Vraiment, c'est comme si vous aviez le magasin, c'est le magasin qui vient à vous.
Vous avez des exemples qui vous ont marqué, puisque c'est quand même vous transformez ce métier grâce à votre entreprise.
Ah ben bien sûr, les opticiens déjà, les opticiens tous les jours font part d'anecdotes, puisque les opticiens vont se déplacer auprès de plein de public fragile, donc ils vont passer un moment aux personnes agréables, puisque l'objectif c'est que quand on a un trouble de la vue, qu'on ne sait pas le prendre en charge. Alors nos publics c'est principalement des personnes en EHPAD, donc c'est vrai que tous les aidants qui ont des personnes en EHPAD, c'est une vraie contrainte de devoir les déplacer, l'emmener chez l'opticien, l'emmener chez l'ophtalmo.
Bien sûr.
Et donc de travailler directement auprès d'eux, bah ça donne des exemples tout simples. Une personne qui va avoir une difficulté à se déplacer, par exemple avec un ergothérapeute dans un EHPAD, eh bien une fois qu'elle voit bien, la personne peut avoir une meilleure nutrition, ça favorise la nutrition, ça favorise la mobilité dans le cadre d'exercices avec les ergothérapeutes.
Mathieu Gerbert, vous êtes le patron des opticiens mobiles hein, ce soir sur Europe 1, c'est une émission dédiée à la franchise. Combien de franchises en 9 ans d'existence ?
72.
72 Adapt. Franchises. C'est quoi le ticket d'entrée pour accéder, pour avoir, je sais quoi, c'est une voiture avec un opticien mobile, c'est quoi l'idée?
C'est une voiture, mais en fait c'est très léger. Nous on a 15 000 euros de droit d'entrée, donc 5 000 euros de formation.
Ce qui est peu, je crois, pour.
Oui, c'est assez faible. L'objectif c'était vraiment de pouvoir avoir quelque chose d'accessible pour les opticiens, pour leur permettre d'exercer. Et ensuite ils ont des charges fixes qui sont très très faibles, ils doivent avoir en effet une voiture. D'avoir un ordinateur, leurs outils d'opticien, c'est 300 euros par mois, et tout le reste est fourni par la société des opticiens mobiles. Et il y a un partage de la valeur ajoutée qui est ultra transparent, c'est pour ça qu'on appartient à l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait un partage de la valeur ajoutée par rapport à ce qui est apporté par le franchiseur.
Quels sont les profils de vos franchisés, Mathieu Gerbert ?
Ah, c'est les personas. On a un public très féminin, des gens qui sont passés par une expérience en magasin, et qui ne se retrouvent plus vraiment dans le métier qu'ils font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'avoir plus de contact avec les personnes. Et c'est vrai que dans les magasins, ils sont en manque de contact, de prise de temps avec le patient. Et là, ils ont vraiment tout le temps, lorsqu'ils se déplacent à domicile ou dans un EHPAD, de pouvoir échanger avec le patient, faire de la coordination de soins.
Mais c'est qui
avec
les profils ? C'est des reconversions ? C'est des opticiens qui en ont marre d'être dans des magasins physiques ?
On a des jeunes diplômés, des gens qui travaillent dans les magasins. Il y a des gens qui sont en reconversion, qui ont été opticiens, qui ont abandonné le métier d'opticien, qui reviennent pour faire ce métier d'opticien.
Parce que ça a du sens dans ce que vous mettez.
Exactement, l'objectif c'est que
voilà. On est dans cette
et on revalorise le métier d'opticien puisqu'on met en avant vraiment, il n'y a pas d'enseigne, il y a le nom, les opticiens
mobiles,
c'est
la voiture,
mais c'est surtout la personne avant tout. Il y a pas de, vous ne rentrez pas dans un univers de magasin.
Vous refusez parfois des...
Oui,
les critères?
On refuse entre 10 et 15 candidats par an aujourd'hui.
C'est quoi les critères pour entrer chez vous?
On en recrute que 25 aujourd'hui.
Ouais. Là, vous cherchez à grandir, à avoir d'autres franchises ?
Oui, on recrute, on voudrait en recruter plus, mais on a une capacité aujourd'hui et un rythme d'avoir entre 25 et 30 opticiens qu'on recrute par an et on refuse.
Comment savez-vous cette capacité, 25, 30, parce qu'on peut en voir partout aussi, des opticiens mobiles ?
C'est la capacité de trouver le bon profil avec le bon savoir-être et le bon savoir-faire.
Et la bonne région.
La bonne région, et donc en effet, pour pas qu'il y ait des doublons, mais on a un potentiel d'en avoir, on a 400-500 zones de disponibles pour pouvoir le faire.
Voilà, où les besoins sont-ils les plus importants ?
Ils sont partout en fait. On pourrait se dire que dans le plein cœur de Paris, il n'y en a pas besoin et pourtant on a des demandes de rendez-vous assez fréquentes au plein centre de Paris. Donc c'est vrai que principalement on peut se dire que c'est les zones périurbaines et rurales ou déserts médicaux, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc en fait les besoins ils sont partout parce que les problèmes de vue sont partout.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs et des belles entreprises françaises. Et ce soir, la franchise au cœur de votre France bouge. Et si c'était la solution pour entreprendre en mesurant les risques ? La franchise est très développée dans la restauration. On l'a vu, de nombreux restaurateurs et investisseurs du secteur se tournent vers la franchise pour ouvrir leur commerce. Et au-delà de l'accompagnement, au-delà de la solidité de la marque, ça devient souvent des chaînes de restaurants, comme l'a constaté Antoine Fenech au micro Europe 1 de la France bouge. Écoutez.
Depuis toute petite, je suis habituée à aller dans le restaurant Hippopotamus, tout simplement parce que c'est accessible, c'est un restaurant qui est ouvert tous les jours et toute la journée. Donc si on a faim à 15h, on peut s'y rendre et déjeuner, ce qui est très agréable. Je trouve qu'il y a un niveau qualité-prix qui est plutôt intéressant.
Moi j'aime bien la chaîne Au Bureau, c'est pas mal pour fêter un pot de départ, un anniversaire, pour boire un verre après le travail.
Oui, je pense que comme tout le monde, il y a des chaînes de restaurants où on est tous allés. Bon, par exemple, le McDo, il y en a partout, c'est pas très cher, c'est rapide. J'y vais aller de temps en temps. Sinon, j'essaye d'éviter les chaînes de restaurants. Je pense que j'ai peut-être moins confiance dans la qualité. Mais quand j'y vais, c'est plutôt des chaînes comme Sushi Shop ou Jour pour manger une salade.
Alors j'avoue, moi je suis un admirateur des restaurants de quartier. Les grandes chaînes, c'est pas ce qui m'attire le plus pour aller manger. Je préfère la bonne gastronomie avec un mec qui est proche de ses clients.
Les Lions de Bruxelles, par exemple, j'aime bien parce que voilà, c'est une occasion de déguster une moule frite. On sait qu'elle sera bonne, on connaît. C'est un peu l'avantage que je trouve chez les franchises, c'est qu'au moins quand on y va, on connaît déjà à peu près quel sera le produit, les types de services, le niveau de service également. C'est un stress en moins de se dire ok, est-ce que ce sera des plats qui me plairont, est-ce que la carte me plaira ou pas.
Propos recueillis par Antoine Fenech au micro Europe 1 de La France Bouge. On l'a entendu, je ne sais pas si ça vous fait sourire, mais c'est la valeur sûre hein, qui rassure tout le monde, non? Je ne sais pas.
Moi, je pense qu'on est tous ici dans ce studio, aller au moins une fois dans une franchise.
Mais oui, non, mais c'est ça.
Parce
mais
que c'est par habitude,
y a pas
c'est facile.
Surprise, moi, c'est ça que j'entends. Mathieu Gerbert, vous êtes le président fondateur des Opticiens Mobiles. Il n'y a pas de surprise quand
non,
on sait
pas.
Qu'on fait appel à une marque. Alors là, c'était la restauration, mais à une marque qu'on connaît. Donc, on sait ce qu'on va. Là, en l'occurrence, pour la restauration, on sait ce que l'on va trouver dans l'assiette.
Oui, c'est tout l'objectif et c'est tout l'intérêt d'une marque. Elle doit amener sa caution. Elle doit amener donc un savoir-faire et qui doit être respecté. Et en effet, c'est ce que cherchent les clients. Et en règle générale, les franchises, c'est ce qu'elles délivrent.
Il y a un cahier des charges bien précis.
Il y a toujours un cahier des charges bien précis.
Et on ne va pas en sortir.
Voilà.
Certains font le choix de se lancer en pensant à la franchise. C'est ce qui vous est arrivé, Najma Swab?
Alors à la base, non.
Ah, et ben voilà. Et ça s'est présenté comme ça.
C'est ça. Ça s'est présenté vraiment tout seul. À la base, on n'était pas parti sur de la franchise du tout. Mais petit à petit.
Vous en prenez le chemin.
C'est ça, exactement.
Najma Swab, cofondatrice de Besties Bakery.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
Najma, vous avez 33 ans, c'est ça?
Exactement.
Et vous, c'est simple, votre entreprise, c'est votre passion.
Exactement.
Et il y a aussi un petit parcours d'entrepreneur. Vous avez fait un bac communication. Au début, c'était pas prévu
de continuer
vos études. Vous avez travaillé comme hôtesse pour des événements. C'était pas votre truc. Vous êtes un
Exactement.
Peu ennuyée, on va
c'est
le dire
ça.
Comme
Je
ça.
Je savais pas trop où aller. Mmh. J'aimais un petit peu tous les métiers, toucher à tout. Et puis du coup, je me suis tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat.
Ouais, donc c'était aussi un peu par hasard. Je crois que vous êtes partie sur un coup de tête à Dubaï.
Exactement.
Hein, en vacances, et vous y êtes restée 3 ans.
C'est ça, exactement. Alors à la base, j'ai déjà créé ma première société à mes 21 ans.
Ah
donc,
oui.
D'abord dans la pâtisserie. J'ai toujours été passionnée par la pâtisserie. J'en ai jamais fait les études.
Et c'était quoi comme entreprise à 21 ans?
Najma Event.
Et c'était quoi? Donc c'était pour des événements?
Donc c'était pour des événements, tout ce qui était cake design, gâteau sur mesure, décoration,
les
pour
cakes
les mariages
d'anniversaire qu'on trouve
exactement.
Avec la pâte à sucre, c'est vous. Mais on adore. Donc vous avez 21 ans, mais pourquoi vous êtes arrêtée?
Alors non,
c'est après Dubaï ou vous avez poursuivi?
Alors juste avant, donc je l'ai fait pendant 3 ans. Et un jour, sur un coup de tête, pour certaines raisons aussi personnelles, j'avais besoin de voyager, de quitter le pays. Je me suis rendue dans une destination que je ne connaissais pas du tout, Dubaï. Donc, parce que ma maman rêvait d'y aller. On a été en vacances durant 2 semaines. J'ai eu un coup de cœur sur cette ville, en sachant que je ne parlais ni l'arabe ni l'anglais, faut le dire. Mmh. On est reparti de là-bas et j'y suis retournée ensuite pendant 3 ans. J'ai pris un aller sans retour.
Et vous avez fait quoi là-bas?
Et j'ai créé mon agence de voyage.
Bah, faut le faire créer voilà. Sa boîte à l'étranger. Déjà en France, on trouve ça hyper difficile.
C'est ça.
Bah, comment vous avez fait de agence de voyage de quoi? Pour les personnes qui viennent visiter Dubaï?
C'est ça, exactement. Pour les touristes français, qui s'appelle Mes Vacances à Dubaï, qui existe toujours à l'heure actuelle. En fait, ça s'est présenté tout seul aussi. Je mettais sur mes réseaux sociaux donc mes petites visites. Et à l'époque, c'est vrai que Dubaï en 2017, c'était pas encore très connu. Il n'y avait pas autant de personnalités sur place. Donc je mettais des petites adresses via mes réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de demandes pour savoir comment faire, où aller.
Donc c'est les réseaux sociaux
les réseaux
qui vous
sociaux
ont un peu...
qui m'ont poussé.
Poussé voilà. À aller vers ça.
Donc à la base, c'était un petit blog. Et c'est devenu un site de réservation
Vous l'avez revendu, votre entreprise?
Non, je l'ai toujours.
Ok, oui. Et il y a des personnes qui travaillent
c'est
là-bas
ça,
pour
exactement.
Vous.
Exactement.
Voilà, donc entrepreneuse à 100%, Najma Swab, voilà. Cofondatrice de Besties Bakery. Si vous êtes là ce soir parmi nous sur Europe 1, c'est aussi parce que vous êtes rentrée donc, à Paris et là, vous êtes revenue à vos premiers amours,
voilà.
À la pâtisserie.
Exactement, donc je suis revenue juste avant le Covid. Donc j'avais déjà l'idée de Besties Bakery, d'ouvrir un salon thé comme on en fait de très beaux là-bas.
Ah, et donc Dubaï vous a inspiré.
C'est ça.
C'était quoi les salons thé très beaux là-bas?
Bah là-bas, il y a... Beaucoup de salons de thé, c'est pas forcément des franchises, mais de très beaux salons de thé, très bien décorés, très bons, et surtout avec de belles pâtisseries très visibles. Et c'est ce qui m'a donné envie. Surtout aussi le donuts. Donc quand je suis revenue en 2019, donc je recherchais à tout prix pour manger des donuts, il n'y en avait pas forcément à Paris. Et on a été se former pour pouvoir créer cette marque.
Vous avez créé donc Besties Bakery au début avec vos fonds propres, hein, je crois.
Exactement.
Hein. Oui. Bah, vous allez me dire ce que c'est maintenant. En une minute.
Oui.
Allez, c'est parti pour le pitch avec vous, Besties Bakery. On vous écoute.
C'est ça. Alors, Besties Bakery, c'est une entreprise que j'ai créée avec ma petite sœur et mes meilleures amies, d'où le nom Besties Bakery. Donc, ce sont des salons de thé 100% américains, si je puis dire, mais avec une petite touche à la française, puisqu'il faut savoir que toutes les recettes sont travaillées par moi. Donc, malgré que je n'ai pas fait d'études en pâtisserie ni de CAP, j'ai créé mes propres recettes de pâtisserie dans lesquelles il n'y a ni beurre. C'est vrai que dans les pâtisseries américaines, souvent, elles sont reconnues par rapport à ça. Donc, c'est des recettes très allégées, entre guillemets. Et à l'heure d'aujourd'hui, Besties Bakery, on peut commander un gâteau d'anniversaire sur mesure en moins de 24 heures. Donc, il faut savoir qu'on personnalise les gâteaux de A à Z. Le client peut choisir et sa base de gâteau, et sa crème, et son décor, absolument tout. Et on le réalise grâce à nos pâtissiers en moins de 24 heures. Donc, c'est le concept qu'on a décidé de franchiser par la suite, puisqu'on a eu énormément de demandes par rapport à ça.
Merci pour votre pitch, Nejma Souab, cofondatrice de Besties Bakery. Ça nous met l'eau à la bouche. Hein.
Oui, ça donne faim. Et on sait tous à qui on fera appel pour nos prochains gâteaux d'anniversaire.
Non, mais alors, si par exemple, je veux faire un gâteau, là, je vous commande, j'appelle ce soir pour demain, je veux une génoise avec de la pâte à tartiner, tout ça, vous.
Alors,
c'est
en fait,
bon,
vous pouvez passer directement soit sur notre site internet, soit par email ou en boutique directement avant 19h. Donc, préciser, voilà, j'ai une génoise à la vanille, une crème framboise. Je veux Pikachu dessus ou Hello Kitty ou je ne sais quoi. Et nous, on vous le reproduit pour le lendemain matin.
Et comment vous le reproduisez? Parce qu'il y en a qui mettent 10 jours pour faire des gâteaux comme ça.
Eh oui, bah nous, grâce à nos pâtissiers et grâce à notre fonctionnement, on a réussi à créer justement ces gâteaux sur mesure en un temps record. On arrive aussi certaines fois à le faire le jour même.
C'est ça votre valeur ajoutée aussi, c'est le temps.
Exactement. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que moi, qui adore la pâtisserie, même pour mon anniversaire, si je veux commander par exemple une charlotte aux framboises ou autre en pâtisserie, il faut un minimum de 72 heures.
Moi, j'étais confrontée, pour mes enfants, 10 jours parfois.
Voilà. Sauf que nous, avec l'organisation qu'on a réussi à trouver, on arrive maintenant à créer des gâteaux en moins de 24 heures.
Vous êtes combien ?
En boutique ou au total ?
Non, l'organisation, c'est qui ?
Au total, on est 15 personnes.
15 personnes, donc combien de pâtissiers, de ceux qui ont les mains dans la farine ?
5 personnes.
5 personnes. Ça vous plaît autour de la table ? Ouais.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Hein. Alors, mais comment la franchise vient à vous, Nejma Souab ? Parce que je rappelle que ce soir, on parle de très belles entreprises, des opticiens mobiles, de Besties Bakery et ensuite de The New Me. Mais parce que le point commun de tout cela, c'est la franchise. Comment la franchise vient à vous ?
Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes, donc surtout 2023. 2023, j'avais beaucoup de clients qui passaient en boutique et qui me demandaient où trouver des Besties Bakery. Donc, en effet, on était qu'à Opéra à ce moment-là.
Paris, dans
Paris 9e, okay. Exactement. Mmh. Et un jour, juste par curiosité, j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux, donc en disant qu'on se lançait à la franchise. À ce moment-là, je n'étais pas du tout prête. Je voulais juste savoir s'il y avait des intéressés et dans quelle ville on pouvait installer des Besties Bakery. Donc, on a mis une annonce de franchise et en une semaine, on a reçu à peu près 500 demandes de franchise dans toute la France.
Et ça, c'était quand ?
C'était l'année dernière, du coup.
L'année dernière.
Il y a un an.
Alors, on fait comment ? Parce qu'il faut s'y connaître un peu.
Eh ben, j'ai eu peur.
Mais je comprends.
J'ai eu peur et du coup, j'ai fermé la boîte email. Parce que du coup, je n'arrivais pas du tout à gérer à ce moment-là. J'avais pas les équipes pour. C'était vraiment au début pour savoir si le concept plaisait.
C'est ça, donc, on doit éprouver le concept.
Voilà, j'ai en effet vu que ça intéressait, que j'avais beaucoup de personnes, que ce soit dans le sud de la France, dans le nord de la France, en Suisse, en Afrique ou aux Émirats. Donc, on recevait des demandes de partout. Et du coup, j'ai mis un an pour me préparer mes équipes, embaucher.
Alors, comment on se prépare quand on a sa start-up, son entreprise, on ne s'y connaît pas forcément. On voit qu'il y a une demande, donc on essaye de répondre le mieux possible à la demande. On va le voir aussi avec vous, Constance de Chompré, tout à l'heure. Il y a une demande, donc il faut y répondre.
Exactement.
Mais on fait comment ? C'est-à-dire que qui vous a dit, bon, alors si tu veux faire une franchise, le ticket d'entrée, c'est tant. Le cahier des charges, c'est quoi ? Qui ? Comment vous faites ?
Eh bien, on s'en sort tout seul, parce qu'au début, il y a beaucoup de mauvaises informations aussi. Et puis souvent, on nous dit non, on n'y va pas. Voilà, on nous dit non, on n'y va pas. C'est trop dangereux, c'est trop difficile, tu ne vas pas y arriver.
Qui
autre
vous a
chose.
Dit ça,
beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, beaucoup de personnes. Et du coup, mais moi, c'est quand on me dit non que j'y vais.
Ouais, évidemment.
Donc, ça a été le contraire. Je me suis renseignée toute seule, tout simplement en regardant les grandes chaînes comme Amazon, comme McDo, etc. J'ai vraiment cherché. J'ai vraiment cherché comment est-ce qu'ils ont réussi à franchiser. Et en réfléchissant, petit à petit, en travaillant mon concept, j'ai réussi, entre guillemets, à trouver la solution. Et après, je me suis entourée d'une bonne équipe, donc qui est aujourd'hui
que vous avez recruté pour ça,
exactement.
Pour la franchise.
C'est ça.
Alors c'est quoi le processus pour être franchisé Bestis Bakery? Vous mettez quoi en place? C'est quoi?
Alors donc du coup ils sont formés de A à Z déjà. Il faut trouver la boutique.
Polytech. Ah oui.
Exactement. Mmh. Donc trouver la boutique. On a trois formats. On a le kiosque, la petite boutique et le salon de thé. Puisque on a créé l'année dernière une carte de brunch sucré-salé. Donc on peut y trouver des pancakes, des hot-dogs, plein de gourmandises aussi. Donc on a trois kiosques, trois tailles différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos boutiques n'ont pas forcément besoin d'extraction. Donc ça, c'est un point fort dans
ça
la
veut
restauration.
Dire quoi, d'extraction ?
Ils n'ont pas besoin de cheminée. Donc dans les boutiques, quand on cherche dans la restauration,
ah oui, c'est important,
voilà, des D'accord. boutiques en général, souvent pour la restauration, l'extraction est obligatoire, mais c'est souvent des locaux qui coûtent très cher.
Et vous, pour les gâteaux, il n'y en a pas besoin?
Non, il n'y en a pas besoin. Puisque du coup, nous produisons les pâtisseries et on livre quotidiennement nos franchisés.
Mmh. Et quel rapport avec l'extraction?
Du coup, justement, on n'a pas besoin d'extraction.
Okay.
Donc même si justement, ils veulent ouvrir une boutique avec un brunch, ils n'auront pas besoin de trouver une
D'accord.
boutique avec extraction.
Ça facilite peut-être les lieux, le potentiel
plus facile,
des lieux
c'est ça.
Pour trouver
ouais. C'est
lieu,
beaucoup
finalement.
Plus facile
c'est
à trouver simple. Et puis ça coûte aussi moins cher.
Ça veut dire que vous fabriquez tout, vous centralisez tout
Exactement.
Et vous distribuez à vos franchisés.
Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, le franchisé n'a pas besoin d'avoir de connaissances en pâtisserie ou n'a pas besoin d'être pâtissier pour ouvrir une franchise Bestis Bakery.
Donc vous ne les formez pas à votre savoir-faire?
On ne forme
juste
pas
la marque.
Voilà, la marque.
Et le concept, évidemment.
Le concept, exactement. Mais on forme un pâtissier par boutique pour tout ce qui est création sur mesure.
Bah évidemment,
comme
parce que...
je vous ai dit, pour avoir les gâteaux en moins de 24 heures, ils sont formés chez nous, mais une formation de 2 semaines suffit.
Qui sont, je vous pose la même question qu'à Mathieu Gerbert tout à l'heure, le président fondateur des Opticiens Mobiles, qui sont les demandes de franchisés? Qui sont vos futurs franchisés? Là, vous êtes en train de signer des contrats. Là,
on est en négociation avec 5 franchisés, exactement. On est dans le sud de la France, à Marseille. On a probablement Aix-en-Provence. Et après, on en a 2 en région parisienne et 1 dans le nord de la France.
Alors, quels sont les profils?
Alors, on a des multi-franchisés et on a aussi des couples qui veulent se lancer, qui ont le budget et qui veulent arrêter tout simplement et devenir leur propre patron et se lancer, qui n'ont pas forcément de notions en pâtisserie. D'ailleurs, aucun ont des notions en pâtisserie.
Il n'y a que vous.
Que...
Mais alors, attendez, si je comprends bien, il y a un droit d'entrée là,
oui.
pour avoir un magasin Bestis,
c'est
il est
ça,
combien?
Exactement. On a un droit d'entrée de 25 000 euros. Voilà, mais pour les 5 premiers, donc les 5 que nous allons signer, il est à 20 000 euros.
D'accord, donc voilà. Une petite remise de bienvenue dans l'univers de la franchise. Et ensuite, pour qu'on comprenne tous bien, une fois qu'ils sont franchisés, vous récupérez un pourcentage de leur chiffre d'affaires. C'est pareil pour les opticiens mobiles.
Exactement.
Toujours, exactement.
C'est ça.
Pour service rendu.
Mais oui, et puis parce qu'il y a le nom de la marque, il y a toutes les fondations,
il y a les
services
supports.
Et puis il y a la publicité par la
bien
suite.
Bien sûr, exactement. Tous les supports marketing. C'est encadré ces pourcentages qu'on récupère selon le chiffre d'affaires ou c'est vous qui, en tant que patron, patronne, vous décidez?
Non, c'est assez libre. Après,
c'est
ce
libre.
Qui est très important, c'est vraiment la qualité du contrat. Quand vous faites avec des franchisés, il faut vraiment une très bonne répartition entre les droits et les devoirs du franchisé et du franchiseur. Il faut que les limites soient très équilibrées.
Exactement,
c'est pour ça qu'on
y
appelle
y
un contrat équilibré.
Donc là, ça y est, vous êtes à l'aube de 5 franchises.
C'est ça.
C'est exactement. Formidable. Najma Souab, cofondatrice de Bestis Bakery. Clara Léger, le profil type du franchisé, vous les êtes allé le regarder, ce qui c'était?
Alors, selon une enquête menée par la franchise Banque Populaire, parce que ça marche aussi pour les banques, 4 franchisés sur 10 sont des femmes et 46% ont ouvert leur point de vente dans le même secteur d'activité que leur précédente profession. En moyenne, un franchisé a 48 ans.
Vous, c'est des couples, hein, vous nous avez dit, essentiellement.
Des couples, des célibataires, on a vraiment de tout et on a petit à petit de plus en plus de femmes.
Eh ouais, voilà, oui. C'est ce que...
Beaucoup de femmes aussi qui pâtissent à la maison et qui rêveraient d'ouvrir leur propre boutique et qui se disent qu'avec le concept Bestis Bakery, ce serait peut-être un peu plus simple et surtout elles seront accompagnées. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer, mais ce qu'elles ont peur, c'est d'être seules.
Vous avez apporté des petits gâteaux, là, vous avez apporté quoi?
Oui, je vous ai apporté des cupcakes. Mmh. Voilà, vous avez du chocolat,
y a pas
des
de sucre,
carottes.
Il paraît, moi, je ne comprends pas.
Sans sucre ajouté.
Ah,
et il
n'y
a pas de beurre. Voilà.
Mais il y a quoi à la place? La margarine?
Dans les crèmes? Non, pas du tout.
Vous avez mis quoi, de la compote?
Non, c'est tout ce qui est chantilly. On fait tout ce qui est à base de chantilly. Non, ni beurre, ni margarine. Et vous avez des petits donuts, brownies.
Oh, c'est beau. Ils sont sublimes.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge, cette France. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Cette France bouge dans l'univers de la franchise. On parle de ce modèle d'entrepreneuriat ce soir sur Europe 1. Pourquoi? Mais parce que c'était le salon Franchise Expo qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui à Paris, Porte de Versailles. Donc ce soir, dans la France bouge, 3 entrepreneurs, 3 exemples. Nous sommes avec le fondateur des Opticiens Mobiles, Mathieu Gerbert. Mathieu Gerbert, il a mis en place aujourd'hui aujourd'hui, il a près de 70 franchisés, c'est ça ?
72, exactement.
72, il faut être très précis, vous avez bien raison Mathieu Gerbert. Ce sont des opticiens qui se déplacent sur rendez-vous pour faire des bilans visuels, le choix des montures, des verres, la prise en charge des lunettes par les mutuelles, la sécurité sociale, bref, tout livré, service après-vente pour des publics parfois un peu éloignés, comme dans les EHPAD, des personnes dans les déserts médicaux. Tout ça, vous faites du bien. Il y en a 72 et vous allez en recruter combien cette année ?
On en recrute cette année 45. On a un recrutement spécifique, mais globalement, c'est entre 25 et 30 par an.
Entre 25 et 30 par an. Émission franchise aussi avec vous, Nejma Souab, cofondatrice de Besties Bakery. Vous nous avez distribué vos gâteaux pendant la petite pause. Moi, je goûterai après parce que c'est vrai qu'après, on salive. Enfin, je vous raconte tous les détails de la radio. Non mais en fait, Nejma qui n'a pas passé de CAP pâtisserie, qui a juste un talent, c'est lui de faire des gâteaux sur mesure, des cupcakes, des donuts, des gâteaux un peu d'anniversaire festif avec de la pâte à sucre, etc. Il n'y a pas de beurre, c'est la spécificité de ces gâteaux et elle est en train de signer 5, hein, c'est ça, c'est 5 ça. Franchises, 5 Nejma,
franchises.
5 futures franchises partout en France. Et oui, c'est ça la France bouge. Et la France bouge ce soir donc à l'occasion de cette émission dédiée au modèle de la franchise, on va continuer avec des pépites qui seront sûrement des géants demain grâce à leur modèle, comme celui de The New Me. Et avec vous ce soir, Constance de Chompré, fondatrice et CEO de The New Me.
Europe 1.
Le talent de la France bouge.
Alors Constance, on vous attrape là tout de suite parce que vous étiez, vous, à Franchise Expo pendant ces 2-3 jours, hein, c'est ça, de salon ?
3 jours.
3 jours, vous avez perdu votre voix ?
Un petit peu.
Ouais, parce qu'on parle beaucoup dans un salon comme celui-ci.
Parce qu'on répète de 8h30 à 19h la même chose à des gens qui sont ultra motivés. La plupart qui ont pris le train de Lyon, de Marseille, de Nice et qui sont là pour proposer leur candidature mais aussi pour se rassurer. Donc il faut les écouter mais aussi parler de son concept et leur montrer qu'on est très solide. Donc ça fait 2 jours et demi que je répète la même chose.
Vous avez installé un studio de pilates, de yoga.
De
vous
pilates.
Étiez avec vos collaboratrices, leggings.
Voilà, j'ai mis mon jean pour venir.
Mais et vous faites des démonstrations.
Alors, pas nous directement, mais on a des coachs de notre équipe qui viennent faire des, enfin qui viennent
montrer
tous les jours faire des démonstrations. Mais nous, on est juste en tenue de leggings pour montrer qu'on est des jeunes, dynamiques et sportifs. Effectivement, on va mieux vendre notre concept.
Évidemment. Et d'ailleurs, le concept, il est hyper intéressant. Le premier studio est hyper récent. Il est ouvert il y a à peine 2 ans.
Il y a 2 ans, en mars 2022, j'ai ouvert mon premier studio. Et j'en ai 10 aujourd'hui.
Vous en avez 10. Avant d'aller vers ces 10 studios et d'en savoir plus sur ce modèle de la franchise, vous, à l'origine, on aime bien revenir sur les parcours de vie dans la France bouge sur Europe 1. À l'origine, Constance de Chompré, vous êtes avocate.
Tout à fait. Mmh. J'ai été avocate en droit des marques, donc tout ce qui est contrefaçon, droit d'auteur. J'ai toujours rêvé d'être Ally McBeal, mais j'ai vite réalisé qu'en fait, les avocats ne plaidaient plus et que du coup, c'était plutôt derrière leur ordinateur. Et je me suis, à la naissance de mes enfants, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. J'aime l'humain, j'aime les gens. J'avais besoin d'avoir ce contact que finalement, j'avais pas en tant qu'avocate. Et j'ai eu 10 000 idées. Mon mari était un entrepreneur spécialisé dans la franchise et je le voyais à côté de moi et ça me faisait rêver. Et je me suis dit, moi aussi, je vais me lancer là-dedans. Donc mes idées sont vite tombées à l'eau pour la plupart.
Mais c'est ça l'entrepreneur, hein, c'est qu'il a mille et une idées.
Et on arrive, en fait, moi, mon chemin, il est finalement assez rapide, mais finalement pas tant que ça, parce que je suis passée par plein de phases avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui.
Vous aussi, ça a démarré sur les réseaux.
Exactement.
C'est important. Vous aviez créé un blog. Au début, c'était des blogs, hein, on appelait ça. Il n'y avait pas forcément cette puissance d'Instagram et d'autres réseaux sociaux. Donc, vous avez créé un blog de maman.
Voilà, j'étais avocate, j'avais besoin de good tips en tant que jeune maman, donc j'avais créé un blog pour essayer de constituer une communauté de femmes et qu'elle ait, quoi qu'il arrive, peut-être adhérer à mon projet ou en tout cas à ma personnalité. Et ces femmes, donc j'ai commencé à faire des newsletters, puis ensuite j'ai créé mon blog. Et puis après, il y a Instagram qui est arrivé, qui est un outil de marketing et de communication, aujourd'hui je pense le plus puissant,
bien sûr,
qu'on puisse avoir pour entreprendre. Je les ai emmenés parce que moi je suis très sportive, j'aime le sport, j'aime tout ce qui est healthy, voilà. Et donc un jour je suis partie à New York, j'ai vu un concept canon.
J'ai fait 5 cours de sport par jour et j'ai vu un concept et j'ai dit voilà les filles, moi je vais le faire à Paris dans un an.
Donc ça vous le dites sur le blog, vous racontez.
Tout, je raconte mais ma vie.
Mais parce que il faut oser aussi faire ça. Parfois on se dit oh mais j'ai une bonne idée, j'ai pas envie qu'on me la pique, mais qu'est-ce qu'on va penser? Vous non, on y va.
Non, et c'est ce que je dis à mes futurs peut-être franchisés au salon, c'est la communication, c'est 90% de notre business. Vous êtes peut-être pas à l'aise sur les réseaux, vous avez peut-être un profil justement qui est carré entrepreneur, en tout cas entrepreneur, vous avez des forces, mais c'est pas grave si vous êtes pas fort sur la communication. On va prendre quelqu'un dans votre équipe qui va être fort là-dessus. Chacun, en tout cas, sa force. Mais par contre, ça va être important. Donc, on va trouver un profil qui va vous accompagner pour vous aider sur la com de votre futur studio. La com, c'est important.
Donc, vous lancez ce blog, vous racontez, vous allez à New York, vous faites 5 cours par jour, vous tombez.
Je dis que c'est le nouveau moi, The New Me, que c'est une révélation que j'ai eue. Et je rentre dans l'avion.
On comprend.
Voilà. Et je rentre dans l'avion, j'écris à cette fille à New York en lui disant ton concept, il est canon. Est-ce que tu veux pas le franchiser en France? En tout cas, moi, j'ai une énergie, un réseau, j'aime le sport. Et elle m'a dit « No way
no ».
Et
way.
Donc, ça s'appelait pas The New Me à New York. Et donc, j'ai déposé The New Me. J'ai acheté le nom de domaine quand je suis rentrée de New York, je pense le soir même, en atterrissant à Paris. Et puis après, j'ai dit « Dans un an, j'ouvre. Je vais me donner un an pour l'ouvrir. » Et puis, il y a eu le confinement qui est arrivé. Et pendant le confinement, tout le monde faisait des cours de cuisine. En tout cas, les gens faisaient des choses sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, vous savez quoi, on est tous là, on s'ennuie un peu, on va tous prendre son téléphone, rendez-vous demain à 17h, je fais un live, je me lance, c'est parti, je fais une playlist. Et j'ai scotché le téléphone sur la valise de mon mari, j'ai commandé un micro sur Amazon et j'ai dit, ok, on fait du sport. Et c'est
mais
là.
Vous n'êtes pas prof de sport
pas
à la base.
Du tout.
Mais qu'est-ce que vous leur avez fait faire?
Eh ben, le concept que j'avais à New York, qui est un cours sur tapis avec beaucoup d'énergie. En fait, l'important dans ce concept, c'était l'énergie. C'était parler. Alors, aux États-Unis, c'est très comme ça. C'est très entertainment. On parle. Ouais. On encourage les gens. En France, les gens sont un peu plus timides, un peu plus réservés.
On se fait engueuler en salle de sport en France.
Donc, voilà.
Mais c'est vrai. Donc, pas partout, heureusement.
Donc c'était l'idée, c'était ça, et puis en fait on était 1000, et puis 2 jours après on était 2000, et puis 3000, et puis 5000.
Donc là la communauté, votre communauté sur les réseaux,
ça grandit
Constance.
Tout le monde dit il y a des super cours sur Insta, cette fille elle est géniale, enfin je ne sais pas. Donc c'était le good buzz, mais il y avait aussi le bad buzz puisque je n'étais pas coach de sport et que on expose sa vie sur les réseaux, donc c'est super, ça va très vite, c'est une force, c'est une puissance Instagram, mais c'est aussi le faire le choix de montrer sa vie et donc d'être aussi critiquée. Et donc moi j'ai été invitée très rapidement sur des comptes Instagram de grandes marques qui voulaient que je fasse des lives sur leur compte parce que toutes ces marques aussi voulaient vivre pendant le confinement. Donc j'ai été invitée sur le compte de Caudalie, merci de m'avoir fait confiance.
Mathilde
puis
Thomas.
Sur le compte d'Etam, puis rapidement sur le compte de Benefit France.
Des très belles marques.
Fusalp, enfin plein de marques.
Sophie Lacoste qu'on salue, qui est venue il y a pas longtemps dans La France Bouge.
Et donc c'était super parce que moi les gens me demandaient vous prenez combien pour faire un cours en live sur notre compte, et moi je disais mais pardon, gratuit. Je suis tellement contente. Et en fait, comme ça, j'ai créé une sorte de communauté.
C'est fort, hein, c'est puissant ce que vous nous racontez ce soir quand on se rencontre.
Et donc après, je suis rentrée à Paris et j'ai dit, je vais continuer de faire ce cours.
Et je vais le professionnaliser
quand
même.
Voilà, je vais le professionnaliser, je vais passer des diplômes parce que c'était un petit peu compliqué pour moi quand même de gérer un peu ce bad buzz de un peu, voilà, la France, c'est un peu ça aussi. Quand ça marche, on va chercher la faille.
Donc elle n'a pas son diplôme.
Qui ne va pas.
Donc,
c'est une imposteur.
Vous l'avez jamais ressenti?
Moi, je l'ai pas ressenti parce que je trouve que je mettais plus d'énergie. Enfin, je donnais tout ce que j'avais et je pense que c'est pour ça que ça a marché.
Et vous avez fait du bien.
C'est que les gens m'ont toujours remercié en me disant, et encore sur le salon de la franchise, je vous suis depuis vos débuts, je faisais vos cours pendant le confinement et aujourd'hui, je vais ouvrir un The New Me à Lille. Et ça fait plaisir. Et après, donc, les studios fermés, ouvrés. J'ai continué de donner des cours dans des studios où je sous-louais des lieux, dans des apparts clandestins parce que les filles, elles avaient qu'une envie, c'est de continuer les cours. Et puis je me suis dit je vais monter mon propre studio parce que il y a mon cours, il y a cette énergie que j'ai et que j'ai envie de transmettre, mais j'aime aussi beaucoup de choses, la déco, les lieux de vie.
Et donc vous avez fait tout un concept. Vous allez nous dire, parce qu'il y a quand même un petit pitch, vous allez nous dire justement, Constance de Chombray, The New Me, c'est quoi? C'est quoi ce concept? Vous avez une minute, vous en avez beaucoup dit déjà. Allez, on vous écoute, c'est à vous Constance.
Alors The New Me, c'est aujourd'hui donc 10 studios qui sont vraiment spécialisés dans le pilates réformeur. J'ai fait évoluer mon concept. Donc c'est des machines de pilates comme des lits. Il y en a entre 9 et 12 par studio, par point de vente. J'ai commencé en 2022 donc avec mon premier studio. Aujourd'hui, j'en ai 8 d'ouverts, 2 qui sont en travaux. J'ai décidé d'aller plus vite encore, de justement, comme on expliquait, de mailler, de faire un d'étaler ma marque et d'en mettre un peu partout. Donc j'ai décidé cette année de faire pour la première fois le salon de la franchise. J'ai eu 182 rendez-vous sur ces 3 jours et je suis là aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée.
Mais on est ravis. Merci pour votre pitch, Constance de Chompré, fondatrice de The New Me. Donc vous avez dit 180 demandes de franchise. C'est quoi le ticket d'entrée chez vous?
25 000 euros.
25 000 euros.
Et ensuite, moi, c'est 10% de royalties. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup, puisqu'un concept, normalement, c'est entre 5 et 7%. Mais notre business est très rentable et donc on prend 10% de royalties par mois ou sur l'année, voilà.
Il est très rentable aussi parce que vous êtes la salle de sport sans abonnement aussi.
Exactement.
Si j'ai envie de venir prendre un cours de pilates chez vous demain, je suis pas obligée.
Il n'y a pas d'abonnement.
Mais c'est ça qui est extraordinaire aussi.
Parce que, en fait, comme on a 12 lits de pilates, ce sont des cours collectifs, on a des cours de 8h à 21h et il y a 11 places, 12, 9 dans certains studios. Donc, évidemment, on peut pas mettre d'abonnement parce que si vous avez un abonnement, vous allez bloquer plein de cours et puis pas venir. Donc, moi, c'est des cartes de cours. Donc, c'est un cours à l'unité. On fait toujours une offre des couverte de 3 cours à tarif dégressif pour que vous puissiez tester 3 coachs, puisque le sport, il y a mon concept, mais il y a aussi les coachs qui sont importants, puisque
et
c'est
vous
une énergie.
Et c'est facile à recruter.
C'est très facile.
C'est
aujourd'hui.
C'est la première fois que j'entends ça depuis 2 ans, c'est hyper facile à recruter.
C'est différent. Les coachs, qui sont des gens indépendants, qui sont payés à l'heure, qui travaillent dans d'autres studios, ils peuvent donner des cours de boxe au Club Med Gym et venir chez moi donner des cours de pilates réformeur. Moi, je les forme à une méthode, mienne.
Donc vous avez mis au point une méthode?
On a mis au point une méthode. Alors à Paris, c'est plus facile de trouver des coachs que ça va être en province, à Bordeaux, à Toulouse, il y a peut-être moins de coachs de pilates. Moi, à Paris, mes coachs, ils sont déjà tous diplômés de pilates et moi, je les forme à ma méthode avec mon univers, cette énergie, cette musique. Je veux un micro, je veux que vous donniez de l'énergie aux gens. Donc ça, je les forme et à Paris, ils peuvent travailler partout. Donc, c'est moins difficile. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas salariés. Après, le personnel en point de vente, ça, c'est un autre sujet.
C'est encore autre chose.
C'est différent.
Votre objectif, c'est d'ouvrir combien de studios d'ici un an?
Alors, d'en ouvrir 10 de plus.
10 en franchise?
Non, 10 de plus à Paris. Donc, 20 studios à Paris. Je me mets un peu dans tous les arrondissements. J'ai commencé vers l'ouest. J'arrive petit à petit au centre et je vais aller un petit peu vers l'est. J'ai ouvert Neuilly et Boulogne.
Et ensuite en France, donc pour les franchisés, qui vient vous voir là? C'est des femmes, c'est des hommes,
femmes.
Des femmes évidemment. Pour quelle région?
Alors souvent des couples. Il y a toujours la femme qui m'adore parce que moi je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est aussi oh, je vous adore, je vous suis, oh, j'ai trop envie d'ouvrir un The New Me. Et moi la première question que je pose c'est est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous êtes prête à rentrer dans un projet entrepreneurial? Parce que moi, je suis tellement contente que vous m'adoriez. Mais moi, en fait, aujourd'hui, c'est mon business et je veux des gens opérationnels qui soient sur les points de vente.
Et ils vous répondent?
Ils me répondent oui, oui. Alors, certains sont fébriles, viennent se renseigner. En tout cas, sont pas sûrs. Mais moi, comme je vais aller vite, je base un peu. Et la personne qui m'a préparé un business plan de 10 pages et qui me dit, voilà, moi, je dors plus la nuit et j'ouvrirai demain à Lyon. Je sais que la semaine prochaine, on va se revoir.
Formidable. Merci Constance de Chompré, fondatrice et CEO de The New Me. Tout ça, c'est très inspirant. Vous nous avez donné une énergie dans le studio. Hein, on a tous envie de se mettre au sport. Vous savez que la France Bouge, c'est aussi une grande famille et on prend régulièrement des nouvelles des membres de la grande communauté de la France Bouge et on reste dans cet univers de la franchise, évidemment.
La France Bouge. Que sont-ils devenus ?
Clara, on va prendre des nouvelles du fondateur de Crocorico.
Oui, c'est Jonathan Zwickel qui revisite donc le croque-monsieur avec Crocorico à travers des recettes inspirées de nos spécialités régionales françaises. Mmh. Il était venu dans la France Bouge il y a 2 ans, en mars 2022. Aujourd'hui, il veut développer sa marque via des franchises justement. Et la première ouvre très bientôt.
Ah mais on est très contents. Bonsoir Jonathan Zwickel.
Allez, bonsoir à tous.
Ça va ?
Bah oui, ça va bien.
Vous aviez des magasins en nom propre. Là, vous avez décidé de vous développer en franchise. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à gérer. On peut faire d'autres choses à côté. C'est plus en adéquation avec votre vie tout simplement.
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est clairement ça. En fait, moi, je suis un ancien sportif de niveau, comme j'avais dit, dans le hockey sur glace. Aujourd'hui,
grand joueur de hockey à Marseille.
Ouais, je suis aujourd'hui directeur général des Spartiates de Marseille, un club qui est en train de prendre un essor complètement différent. Donc, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je pouvais difficilement faire cohabiter l'opération des restaurants propres et cette activité. Donc, c'est une manière de pouvoir continuer à faire vivre le concept, mais différemment.
Alors, pour faire vivre le concept, première franchise d'ici quelques semaines, le principe, donc, c'est revisiter la France avec le croque-monsieur.
C'est ça. C'est, je trouvais que le croque-monsieur n'était pas assez mis en valeur dans le monde de la restauration rapide. C'est un produit qui passe un peu en dessous des radars et pourtant qui a un potentiel énorme et que tout le monde connaît. Mmh. J'avais envie de le magnifier avec la couleur et surtout les goûts des régions de France. Donc c'était une manière de revisiter le croque-monsieur, de le mettre en valeur et de valoriser aussi la gastronomie de nombreuses régions françaises.
Donc cette première franchise va ouvrir où exactement ?
Dans un aéroport assez connu de Marseille.
Ah, l'aéroport de Marseille, mais oui, c'est une bonne idée. Un petit croque avant de monter dans l'avion, c'est une très très bonne idée. À la sortie de l'avion, oui. C'est une très très bonne idée. Ben, bravo Jonathan Zwickel.
Ben, merci beaucoup à vous.
On est content d'avoir pris de vos nouvelles. Tous ces exemples sont totalement inspirants. Mathieu Gerber, je voyais écouter attentivement Constance de Chompré. Ça vous inspire quoi ?
Ben, moi, ce qui m'inspire, c'est qu'en fait, finalement, c'est comme dans tous nos franchisés, il faut oser faire. Parce que si autour de la table, là, j'ai l'impression qu'on a une pâtissière qui n'a pas de diplôme de pâtisserie, un opticien qui n'a pas de diplôme d'opticien,
c'est
une sportive qui n'a pas de diplôme de sport. Donc finalement, on peut oser entreprendre, vouloir bien faire et le faire en franchise, ça veut dire accepter aussi de conceptualiser, de transmettre un savoir-faire, des valeurs. Et ça, je pense que c'est très important à travers un contrat pour respecter avant tout les clients, parce qu'in fine, c'est le client qui choisit.
Merci à tous les trois d'être venus ce soir. Donnez-nous des nouvelles. On veut savoir quand vous allez avoir 10, 20, 30, 40 franchises de plus. Merci à vous, Nejma Souab, cofondatrice de Besties Bakery. Merci Mathieu Gerber, président fondateur des Opticiens Mobiles. Et merci aussi à vous, Constance de Chompré, fondatrice et CEO de The New Me. Clara Léger, on se retrouve demain dans La France Bouge.
Avec plaisir, à demain.
Europe 1.
La France Bouge. 20h, 21h. Elisabeth Assayag.